N'importe qui peut faire un film, et éventuellement un chef-d'œuvre. Peut-être il n'en fera qu'un seul, mais il peut le faire.
C'est mon âme qui me fait souffrir, ça vous n'y pouvez rien.
Et pourquoi je n'y peux rien ?
Bien parce que vous êtes une femme.
Et alors ?
Excusez-moi, mais les femmes, c'est pas pareil que les hommes.
C'est-à-dire ?
Vous n'avez pas d'âme.
Vous savez, il y a cet objet fétiche qu'on voit sur les photos hollywoodiennes, qui est la chaise du réalisateur. Alors, comme on ne sait pas bien ce qui fait le réalisateur, on se dit c'est le mec qui a une chaise, quoi. C'est pas vrai du tout. J'aime bien rajouter des petits trucs dans mes films. Vous voyez, de rajouter des petits coins secrets, comme ça, des petites surprises qui sont faites pour les gens qui le verront une deuxième fois.
Il a fait une école de cinéma, l'IDEC, mais c'est en voyant plus tard les 400 coups de Truffaut dans une salle de la Rive Gauche à Paris qu'il confie avoir vraiment découvert le cinéma. Arnaud Desplechin, et oui, on dit Desplechin, aime le cinéma des autres, celui de ses contemporains, de Mathieu Amalric par exemple, et celui des aînés que sont pour lui Truffaut, Bergman, René, Chéreau. Desplechin est aussi un homme qui sort au théâtre, au musée, un homme qui lit des romans, de la philosophie, c'est un bel esprit, un esprit curieux et bien fait. C'est même un savant qui fait des films littéraires, une dizaine depuis La vie des morts, le dernier étant Les fantômes d'Ismaël avec son comédien fétiche de la bande Desplechin, Mathieu Amalric. Mais je l'entends déjà dire savant, moi ? Oh non, vraiment pas. Je suis juste un autodidacte, alors je me rattrape.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Bonjour Arnaud Desplechin.
Bonjour Vincent Jones.
Le Grand Atelier, deux heures avec vous et avec les artistes que vous avez souhaité nous faire découvrir ou bien alors découvrir. Est-ce que la notion d'atelier déjà en soi, ça vous parle ?
Il y a quelques invités que j'ai hâte d'entendre, vous voyez, de rencontrer. Alors il y a cet atelier, je pense à l'atelier d'Annette Messager que nous allons visiter, qui est un atelier très solitaire, comme ça, qui est un grand espace et de trucs de solitude. Et souvent, c'est vrai, on dit que je suis qu'un homme de bande. Vous voyez, j'ai des bandes d'acteurs, des bandes de techniciens. Et alors là, ce dimanche, je suis très timide et je ressens la solitude avant de ressentir l'effet de bande. Vous voyez, donc à l'inverse de l'image qui peut m'être prêtée d'homme de bande, je me sens tout seul. Et tout intimidé devant vous.
Vous avez toujours le trac avant de parler dans un micro.
Bah écoutez, deux heures, vous voyez, faut, c'est bien sûr, c'est difficile. That's entertainment, vous voyez, faut pouvoir amuser les gens, les divertir. Qu'est-ce que je vais leur donner à entendre ? C'est une pression.
Allez, j'avoue un secret, j'ai reçu hier soir un mail d'Arnaud Desplechin disant « Est-ce que je ne vais pas ennuyer vos auditeurs ?»
Ben oui, c'est très important. L'ennui, ce n'est pas bien. Vous voyez, le poème de Baudelaire et tout ça, non, c'est pas bien. Il faut chasser l'ennui.
Je vous rassure, je suis certain qu'on ne va pas s'ennuyer avec vous. Encore une fois, on est allé voir effectivement avec vous à Malakoff la plasticienne Annette Messager. Vous m'avez fait vivre aussi une aventure assez exceptionnelle et on va la vivre ensemble avec les auditeurs, avec Mathieu Amalric. Mm-hmm. Ça se passera dans un bus et on comprendra pourquoi aussi. Il y aura un jeune cinéaste qui est aussi un comédien qui s'appelle Rachid Ami qui vient de présenter un film à Venise qui est un film très très intéressant dont on parlera et on en parlera avec lui tout à l'heure. Rachid Ami, si vous êtes d'accord.
Ah, c'est un ami. C'est un ami en plus.
Oui. Il a joué d'ailleurs un peu plus jeune chez vous dans un film et puis il y a un musicien.
Alors c'est Stéphane Oliva, qui est un pianiste de jazz, mais Francis Marmande dirait qu'il ne faut pas dire jazz, que ce n'est pas bien, qu'il faut de musique improvisée.
Francis Marmande, critique au monde.
Voilà, et qui a fait un disque, enfin je ne connais pas toute sa discographie, mais je pensais comme ça, hein, qu'est-ce qu'on peut entendre. Et alors il y a un disque remarquable, qui sont des morceaux composés par Bernard Herrmann, qui est sûrement le plus grand compositeur de musique de film, le compositeur de Hitchcock, de Truffaut, de Brian De Palma, de Scorsese. Et ce sont des thèmes qui viennent de Bernard Herrmann, qui ont été réinterprétés par Stéphane Oliva. Et c'est vraiment un disque fétiche que j'ai chez moi, qui s'appelle The Ghost of Bernard Herrmann, Les fantômes de Bernard Herrmann. Et c'est un disque qui m'habite depuis que je l'ai reçu d'un ami, de Éric Gauthier, qui me l'avait offert il y a une dizaine d'années. Et voilà, 10 ans que j'écoute ce disque, et enfin je rencontre l'artiste.
Alors vous avez de la chance, et nous aussi. Il est en face de vous, Stéphane Oliva, devant un piano. Il va vous jouer, je pense, Marnie. D'après un célèbre film d'Hitchcock.
À Marnie, c'est un film très étrange avec une chanson dedans qui est devenu une chanson connue aux États-Unis. Et c'est dans les fantômes d'Ismaël, quand on voit au tout début Mathieu Amalric qui drague, est un peu solitaire, un peu pris de boisson comme il l'est beaucoup dans le film, et qui drague Charlotte Gainsbourg, il est devant un piano, il fait la gueule et il joue Marnie. Et c'est le thème qu'il est en train de jouer au piano. Alors ça me faisait plaisir de l'entendre par Stéphane Oliva.
Stéphane Oliva, quand vous voulez, Marnie. Marnie par Stéphane Oliva, musicien de jazz, compositeur, très inspiré par le cinéma, en l'occurrence ici, le cinéma de Hitchcock. Vous étiez parti où là, Arnaud Desplechin? Dans votre tête, vous aviez quelles images?
Ah ben, les images de Marnie, la solitude d'une femme. C'est un film très scabreux et avec cette musique qui est très très romantique en même temps. Alors il y a une tension comme ça entre le score de Bernard Herrmann qui est très sentimental et l'intrigue qui est très très crue. C'est cette femme frigide comme ça qui se fait quasiment violer par son époux Sean Connery sur un bateau. Donc j'étais au début dans cette évocation du film et tout d'un coup vous jouez le thème qui arrive, que je ne vais pas infliger à vos auditeurs le fait de le chanter, mais j'ai toujours envie de le, tout seul dans ma salle de bain je le chante, et le thème qui est très très sentimental et qui m'émeut à chaque fois, et vous montez dans les aigus et alors j'attrape chacune de vos notes, vous déconstruisez le thème, vous le cassez, vous le malaxez et ça me plaît infiniment.
C'est comment le thème déjà, Arnaud Desplechin?
Etc.
C'est pas mal. Vous nous chanterez du Barbara peut-être tout à l'heure?
Barbara, ça je ne saurais pas.
Non, vous saurez pas.
Je le laisserai à Mathieu Amalric.
C'est celui qu'on appelle votre double au cinéma. Hein. Sept films avec Desplechin quand même, Mathieu Amalric, qui lui a consacré plusieurs mois de sa vie avec Jeanne Balibar. Ça vient de sortir ce film Barbara. Et vous aviez envie qu'on aille avec les auditeurs rencontrer Mathieu Amalric?
Oui, j'ai découvert le film à Cannes, où le Barbara, où le film était montré. Bon, j'aime tout de Mathieu Amalric. Hein. Je mange ta soupe, le Sade de Wimbledon.
Oui, vous aimez le comédien et le cinéaste.
c'est les deux. Mais vraiment, j'ai été frappé par le film. J'ai appris énormément en découvrant le film de Mathieu et j'avais envie de faire partager cet enthousiasme de cinéma. J'ai vraiment, c'est un film qui compte beaucoup, beaucoup pour moi. Ce qui n'enlève rien au film précédent de Mathieu, mais celui-là, vraiment, il y a une invention formelle de chaque instant qui exige que, voilà, je vois le film et je suis pas le même homme et ça me plaît.
Cet été, je vous demande qui vous voulez rencontrer, Arnaud Desplechin. Vous me répondez, j'aimerais bien, entre autres, la présence de Mathieu Amalric dans l'émission. Je lui dis, proposez-lui quelque chose. Alors, vous l'appelez et il vous répond quoi?
Qu'il en serait ravi. Et Mathieu m'a dit, bah oui, mais enregistrons ça dans un bus. Parce que c'est dans le bus, dans les trajets entre chez moi et vers la salle de montage, que j'ai inventé le film. Vous voyez, on se connaît bien avec Mathieu, on a une passion du cinéma qui nous est commune, et pourtant on a un abord du cinéma qui est très différent. Il me disait ça juste avant, il me disait, ouais, tu vois, quand je fais des films, je les nourris de la vie. Et moi, quand je fabrique des films, moi, Arnaud, je trouve que le cinéma est vachement mieux que la vie. Je construis mes films contre la vie de tous les jours. Je vous disais, j'aime pas l'ennui. L'ennui, c'est l'illusion de la vie de tous les jours. Et la réalité, c'est la passion. C'est quand on est au cinéma, quand le noir se fait, qu'on est dans le siège, que les images se mettent à scintiller. Là, c'est vrai. Et alors, Mathieu, il dit, non, moi, mes films, ils se nourrissent de la vie. Moi, mes films se nourrissent du cinéma et les films de Mathieu se nourrissent de la vie. Donc, sur ce trajet parisien qu'il empruntait.
Entre Charonne et Bagnolet.
Voilà. Et c'est là où le film s'élaborait. Et donc, c'est sur ce chemin-là qu'il pouvait nous parler de son film.
Allez, montez dans le bus 76 avec nous. La prise de son est signée Olivia Branger. Si on est dans le bus, là, oui, avec les enfants qui pleurent, et c'est la vie du bus, quoi. La vraie vie, comme on dit parfois. Il y a un lien dans ce bus 76 avec Barbara?
Oui, voilà, je descendais là, à La Réunion, parce que se trouvait que je pouvais prendre le bus pour aller au montage. Et quand Arnaud m'a dit, tiens, ce serait bien qu'on bavasse un peu, ben, j'ai juste pensé à quand est-ce qu'un film se fabrique? Est-ce que ça va intéresser des gens? Franchement, je regardais des gens, je me dis, comment vous voulez que ça puisse intéresser des gens?
Cette place où vous êtes assis, c'est pas forcément un lieu de tranquillité.
Ah non, pas du tout.
Un lieu d'agitation.
De grande solitude. Mais parfois vraiment d'harmonie. Et ce que je faisais, je prenais des photos donc du mur où l'assistante de François Gédigier, Esther, épinglait comme ça des captures d'écran de chaque scène. Et je prenais une capture d'écran de ça, je l'imprimais à la maison. Et puis souvent dans le bus pour aller au montage, je revoyais le film sur cette feuille imprimée. Et du coup, vous projetez, c'est un état de projection. Et ça, si j'ai pensé à amener Arnaud dans un bus, c'est que je ne sais pas si Arnaud travaille comme ça. Alors, vous voulez pas? On vous ennuie. Vous voyez? Alors voilà, on va passer pas très loin de où Barbara habitait. On pourra peut-être descendre là. Barbara a vraiment habité, sa mère surtout habitait, mais où elle est partie à 20 ans.
Pardon.
C'est juste après la Seconde Guerre mondiale, elles se sont installées là.
Et ça vous émeut de visiter les lieux qu'elle a hantés, Barbara?
Je l'ai fait. J'ai tout lu, j'ai tout vu, j'ai rencontré tout le monde. J'ai pas fait d'études, alors parfois, je crois qu'on peut prendre par là. Parfois, faire un film, ça permet d'avoir ce grand plaisir-là, qui est aussi
de rattraper
un des grands thèmes d'Arnaud, je trouve. C'est la joie du savoir, de l'exploration, je trouve.
Oui, il y a un appétit de savoir chez Desplechin.
Ah oui.
Tout ce que je sais, je le dois au cinéma. C'est-à-dire, j'ai commencé, je suis arrivé à Paris à 17 ans. Tout ce que j'ai lu avant, je l'ai lu en pensant qu'un jour je voudrais faire du cinéma. Et tout ce que j'ai appris, les peintres que j'ai été voir, les musiques que j'ai écoutées, les livres que j'ai étudiés, c'était pour faire des films, c'était pour ça. Donc tout, le cinéma me l'a rendu et m'a appris énormément de choses. Et mes études, ça aurait été de travailler dans le cinéma.
Alors, revenons à notre Barbara. Oui. Mais j'aime bien, c'est un peu éclaté, on croirait un film d'Amalric. Et peut-être aussi, malgré le fil, un film de Desplechin. Elle est où, cette maison?
Alors, c'était pas une maison, c'était l'endroit, l'appartement de sa mère, rue Vitruve, où ils sont venus se réinstaller après la guerre, juste après la guerre. Mais elle n'est pas restée longtemps. Sa mère jouait au casino, son père aussi d'ailleurs. Le père était parti déjà. Et un jour, évidemment, on ne pouvait plus payer le piano de location. Les huissiers sont venus, ont pris le piano. Et Barbara a suivi le piano. Elle avait même pas 20 ans. Elle est partie avec le piano. Et c'est là où elle est partie, à Bruxelles. Mais elle ne savait pas où trouver de l'argent. Elle est allée voir une copine qui tient le tabac là, à Saint-Blaise, sur la place en haut de la rue Saint-Blaise. Et elle est partie un an et demi, pas plus, parce que ça ne s'est pas très bien passé. Voilà. Et donc, il y a cet endroit. S'il y a quelqu'un qui rentre, parce que j'ai pas le code, la cour est impressionnante. Parce que c'est sinistre. Et cette femme si fantasque, bourrée de fantaisie, ça c'est ce que j'ai pu découvrir en rentrant en barbarie. Ça permettait du coup, c'était un terrain de jeu pour Balibar extraordinaire, cette fantaisie-là. Voilà, c'est que Barbara était très drôle, très très drôle.
Non mais on peut pas visiter une ville et puis aller chanter après ça, je sais pas, on peut pas. Non, moi j'ai besoin d'aller directement, là, comme les chevaux, hop.
C'est après l'Indien, le rouge que vous voulez, dont vous me parliez.
Le rouge, alors bleu. Non, bleu, mais rouge, ça me plaît qu'à moitié, ça. Non, là du rose, là du bleu, un peu, pas trop. Là, pour suite, quelques gélatines, et puis, voilà, salut la compagnie, salut les copains.
Mais vous êtes tout le bonheur, je sais bien que rien n'y paraît.
De toute façon, t'en fais pas, parce que je te ferai des signes, tu sais, te fais pas de mourons, hein. Si on pouvait chanter dans le noir, c'est ça qui serait le top.
Voilà, c'est ici.
Vous êtes dans vos pensées? À quoi vous pensez?
Je pensais au travail avec Arnaud, j'essaie de me projeter.
C'est vrai que depuis longtemps, Desplechin vous écrit beaucoup de textes, Mathieu Amalric.
Mais pas comme moi, ça va.
J'ai revu.
Il a quand même des tirades, excusez-moi, il a des tirades. Hein. Ouais. Après Jimmy Pee, il est arrivé vers l'assistante et il lui a demandé, et sur ce film-là, il fait combien de prises? Et il est très angoissé parce qu'il avait des tartines de texte. Alors il disait, merde, il me refait le coup d'une prise par plan, je suis mort. Et non, là, ça va, c'est la moyenne, 15. Ça devrait aller. Je pense aux fantômes, cette merveilleuse tirade, parce que tout le film est c'est le réalisateur qui raconte la vie de son frère. Et à un moment, il raconte, son producteur exécutif lui dit, mais pourquoi tu racontes la vie de ton frère? D'un coup, il se met à raconter devant une cheminée et dit, pourquoi je fais le portrait de ce frère est mort, etc. Il part dans un récit. Et alors là, je savais que Mathieu, je proposerai à Mathieu, je me réfrène pas. Et alors là, le personnage, il parle, quoi. Il parle, il se lance, quoi. Quand il se met à parler de Pollock, il se lance, quoi. Il y va pas de main morte, quoi. C'est vraiment.
Et pourquoi vous osez ça pour Amalric?
Parce qu'il sait le faire.
Ouais.
Il faut un acteur qui ose se moquer de lui-même.
Vous dites souvent ça de la personne à Amalric.
Oui. Et c'est-à-dire qu'il faut, un grand sérieux quand on le fait. Il faut être tout à fait croire. Vous voyez, ces longues tirades, il faut y croire, quoi. Parce que sinon, c'est pas possible. Et en même temps, il faut ne pas avoir peur du ridicule. Et ça, beaucoup d'acteurs masculins en France, évidemment, je pense à des acteurs anglais, Cary Grant, tout ça, il faut pas avoir peur du ridicule. Il faut plonger dans le ridicule, il faut embrasser le ridicule.
Tous les acteurs ne sont pas capables de ça.
Non, tous les acteurs ne sont pas capables, et Mathieu l'est.
J'ai envie de savoir comment il dirige Arnaud Desplechin. Il a un peu répondu déjà, mais j'aimerais votre opinion à vous. Vous avez travaillé avec d'autres grands cinéastes, pas seulement français, on peut citer Spielberg entre autres. Qu'est-ce qu'il a de différent et quelle est sa spécificité dans son rapport aux acteurs sur un plateau?
Avant le plateau, il y a déjà tout le travail qu'il a fait, dramaturgique, d'écriture, les scénarios. Il vous donne aussi avec un plan, avec des trajets, des diversions, des digressions, des choses comme ça. Donc vous avez quand même un trajet entier. Et ensuite, quand on se met au turbin, c'est-à-dire d'apprendre le texte, on s'aperçoit immédiatement que la moindre onomatopée, il ne faut pas la modifier, il ne faut pas la changer. En fait, j'ai trouvé Arnaud, c'est comme Cole Porter, si vous voulez. Il écrit les paroles et la musique en même temps. C'est pour ça que les gens aime tellement chanter Cole Porter, c'est que c'est la même personne qui a écrit la musique et les paroles.
Love for sale. Appetizing young love for sale. Love that's fresh and still unspoiled. Love that's only slightly soiled. Love for sale.
Et c'est une fluidité extraordinaire. Et lui, il réécoute, c'est par générosité pour nous. Il nous écoute, il dit, ah ça c'est difficile à dire. Et on remodifie des micro-machins. Mais de la place d'un A ou de... C'est un acteur.
Oui.
C'est un acteur.
Mais vous avez joué dans certains films.
J'apparais, mais très modérément, dans un documentaire que j'ai fait sur mon père. Voilà tout. Et j'ai joué le meilleur rôle que j'ai eu dans l'école de cinéma. C'était Pascal Ferrand qui me dirigeait. Et je jouais un étudiant ennuyeux. Et alors, pendant que je parlais, le héros du film s'endormait. Non, c'était dans un film d'école. Le professeur s'endormait tellement j'étais ennuyeux. Ça a été mon meilleur rôle au cinéma, j'ai arrêté après.
Voilà. Mais il paraît que vous faites l'acteur sur un plateau.
Oui, ça oui.
Vous jouez les rôles, enfin vous montrez comment on peut jouer le rôle.
Les personnages, les personnages.
C'est les personnages, oui.
Donc vous avez joué Ismaël pour Mathieu Amalric ?
Quand Mathieu me le demande, c'est plutôt avec les années, c'est quand parfois il me dit fais-le toi.
Mais comment vous savez faire ça ?
Mais je sais le faire. Je le sais faire parce que je l'ai écrit.
Il l'a écrit.
Donc je sais comment elles marchent, les blagues. Et je sais aussi des petits trucs sur le jeu parce que j'ai passé quand même de longues années de ma vie à regarder les acteurs. Et alors c'est comme une piscine froide. Et alors je n'aime pas leur dire aux acteurs, allez-y, jetez-vous dans la piscine. Alors j'y vais d'abord, le ridicule est pour moi et à eux la gloire. Vous voyez, parce que quand je le fais, l'équipe me voit, j'ai l'air d'un pitre, je joue comme Louis de Funès, mais vraiment je joue comme lui, je joue de manière très très outrée.
Mais comment as-tu pu faire ? Mais comment as-tu pu faire ? Comment ça fait ? Hein ? Te fous pas de moi, hein ? Ne te fous jamais de moi, hein ?
C'est grotesque, et après quand ils le font la deuxième fois, ils peuvent enlever le grotesque et montrer l'héroïsme du personnage. J'endosse le ridicule, mais comme ça je leur permets d'ouvrir le jeu.
Votre double au cinéma n'est pas tout à fait d'accord.
Non, c'est-à-dire qu'il ouvre des possibles lorsqu'il a besoin de s'asseoir à la place de Marion, de la mère, de, vous voyez, et joue sur le cliché et le transforme. Et du coup, nous, il nous met dans un état d'appétit, de jeu inouï, infini.
On est en face de la maison, d'une des maisons, enfin maison, d'un des lieux de vie de Barbara.
Mais oui, qui était pas loin de la salle de montage.
Qui était pas loin de la salle de montage. On s'est dit tout à l'heure dans le bus 67, on pourrait essayer d'y rentrer. Et si vous sonnez en disant « Je suis Arnaud Desplechin et Mathieu Amalric », est-ce que ça marche ?
On va essayer de sonner.
Hein, on va sonner.
Mais ça a l'air d'être des codes.
Ah non. Voilà, bah ils ont mis la...
Une plaque.
La plaque avec la phrase tirée de Perlimpinpin, qui était une des chansons qu'elle... avait le plus de mal à chanter parce qu'il pleurait. C'est pour ça que dans le film, à un moment, ce sont Lou Casa, des jeunes d'aujourd'hui qui font une très très belle reprise de Barbara et notamment de Perlimpinpin. Et le personnage de Barbara les regarde chanter et pleure. Mais c'est ça, et faire jouer la transparence au fond d'une cour au mur gris où l'aube aurait enfin sa chance. C'est vraiment ça. C'est une sorte de prison.
Oui, bonjour, pardon de vous déranger, je vous passe Mathieu Amalric.
Oh, excusez-moi, bonjour. Voilà, je ne dois pas être le premier, mais est-ce que vous pourriez nous ouvrir, parce que je voulais juste montrer la cour de Barbara. J'ai fait un film sur Barbara qui sort là. Merci beaucoup.
Dans la cour. D'ailleurs, l'acoustique n'est pas la même.
C'est vrai.
Ah oui, c'était pas gai.
C'est pas joyeux, quoi.
De la brique grise.
Comme ça, vraiment un puits.
C'est on croirait un peu.
Brique grise, ouais.
Un puits de brique, un peu une cour de prisonnier. Un peu,
ouais.
Quand elle chantait à l'écluse, elle rentrait le soir ici.
Ah oui.
Ouais. Elle est partie quand Ballet lui a loué.
La rue de Rémusat. L'homme pour qui elle a écrit « Dis quand reviendras-tu ?» Mais voilà, ça donne...
Pendant le montage, ça
m'arrivait, je suis venu une ou deux fois ici.
On s'est dit beaucoup de choses, hein.
Oh là là, trop. Jamais on se dit des trucs pareils.
Merci beaucoup d'avoir accepté
ma
demande.
Non, non, merci.
Je vous souhaite bonne chance, mais il paraît que ça se dit pas. Pour le film. On peut dire merde ?
Oui, on dit merde. Et j'ai appris, alors c'est un nouveau rituel que j'ai, c'est-à-dire que si vous dites merde, comme au théâtre, il faut répondre « je prends ». Oui, merde, je prends.
Alors je vais le faire dans les règles. Mathieu Amalric, merde.
Je prends.
Pour qui, comment, quand et pourquoi ? Contre qui, comment, contre quoi ? Son état, c'est de vos violences. D'où venez-vous ? Où allez-vous ? Qui êtes-vous ? Qui priez-vous ? Je vous prie de faire silence. Pour qui, comment, quand et pourquoi ? S'il faut absolument qu'on soit contre quelqu'un ou quelque chose. Je suis pour le soleil couchant en haut des collines désertes. Je suis pour les forêts profondes. Car un enfant qui pleure, qu'il soit de n'importe où, est un enfant qui pleure. Car un enfant qui meurt au bout de vos fusils est un enfant qui meurt. Que c'est abominable d'avoir à choisir entre deux innocences. Que c'est abominable d'avoir pour ennemi les rires de l'enfance. Contre qui, comment et combien, pour qui, comment, quand et combien, en perdre le goût de vivre. Le goût de l'eau, le goût du pain, et celui du perlin, pain, pain dans le square des Batignolles. Contre personne et contre rien, mais pour toutes les fleurs ouvertes. Et pour une respiration, et pour un souffle d'abandon, et pour ce jardin qui frissonne. Et pour vivre passionnément, et ne se battre seulement qu'avec les feux de la tendresse. Et riche de dépossession, n'avoir que sa vérité, posséder toutes les richesses. Ne pas parler de poésie en écrasant les fleurs sauvages. Et faire jouer la transparence au fond d'une cour au mur gris où l'aube aurait enfin sa chance. Vivre, vivre passionnément et ne se battre seulement qu'avec les feux de la tendresse. Et riche de dépossession, n'avoir que sa vérité, posséder toutes les richesses. Rien que la tendresse pour toute richesse. Et donner avec. Avec tendresse, vivre, vivre, avec ivresse, rien que la tendresse, pour toute richesse, me donner, en donner, avec ivresse.
Perlin Pimpin 2 et par Barbara, vous connaissiez ou pas cette chanson alors ?
Pas celle-là, je connaissais. Pour moi, c'est des souvenirs d'enfance de Barbara, puis après je me suis détaché de la chanson pour d'autres musiques.
Pour ne pas faire comme les parents.
Voilà, et j'y suis revenu, et voilà, j'ai vu le film de Mathieu, et je n'ai pas arrêté de me souvenir de mon enfance, de ce moment où on apprend la langue. Et c'est vrai que les chansons, c'est les enfants qui apprennent la langue des adultes, qui apprennent la langue des enfants. Il y a un aller-retour entre la langue des enfants et la langue des adultes qui me plaît bien dans la chanson. Aujourd'hui, j'entends cette voix qui m'a beaucoup appris quand j'étais enfant, et je l'entends, mais je ne peux plus la séparer du film maintenant. Je ne peux plus la séparer de Jeanne Balibar et d'Amalric, bien sûr.
C'est un beau compliment, ça, pour le film.
Bien sûr.
J'arrive pas.
Et les autres, comment ils font pour y arriver,
les autres ? Me saoulez pas avec les autres.
Non, mais c'est toi qui me saoules. C'est moi qui décide. Qu'est-ce que t'as dit, là ?
Lâche-moi.
Comment tu me parles, toi ? Oh ! Qu'est-ce que tu répètes ? Répète pour moi.
Oh, Simon, tu le lâches.
Un extrait de film très court, Arnaud Desplechin. Quel est ce film et quel est son titre ?
la mélodie de Rachid Ami avec Kadmerad.
Bonjour Rachid Ami.
Bonjour.
Content de vous rencontrer. On connaît votre visage. On vous a vu tout petit à l'écran. Racontez-nous un peu ce que vous faisiez et dans quel film.
Harlequin.
Harlequin, c'est comme ça qu'on s'est connus. Ouais.
Ouais.
Je t'ai habillé de toutes les couleurs.
C'était l'esquive.
C'était l'esquive
de Kechiche.
Ouais, de Kechiche.
Et vous étiez ce fameux harlequin chez Marivaux.
Exactement, j'ai commencé avec Abdel. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Quoi.
Et vous avez découvert quoi quand vous avez tourné ce film? Quelles envies? Qu'est-ce qui s'est produit en vous?
Ben moi, je suis devenu acteur par accident, donc c'est un peu comme ça que ça s'est produit. J'ai rencontré Abdel, moi je lui ai dit que je voulais devenir metteur en scène. Puis il m'a dit, si tu veux devenir metteur en scène, eh ben, faut que tu comprennes les comédiens. Et j'ai dit, ouais, très bien. Ben, alors, faut que tu sois un peu acteur. Donc, il m'a dit, maintenant, t'es acteur sur l'esquive et faut que tu comprennes les acteurs avant de devenir metteur en scène. Et c'est comme ça que j'ai débuté.
Et est-ce que c'était un bon conseil?
Je pense qu'il avait raison sur ça.
Ah ouais, c'est...
Arnaud Desplechin.
Ben, il a vu quelque chose, mais Abdelatif est passé par là. Il lui-même a été acteur avant d'être le metteur en scène, extrêmement important qu'il est. Et bien sûr, c'est une idée. Alors moi, j'ai pas eu l'audace de Rachid. J'ai jamais osé devenir acteur. Je vois faire ça. Mais toi, tu as fait les deux. Tu as fait les deux. Et puis on s'est. Moi, j'ai vu le film qui est l'esquive que j'avais adoré. Et du coup, j'avais un rôle assez difficile parce que c'était une scène de genre. D'une attaque d'épicerie par des mauvais garçons. Et alors, c'est un genre qui n'est pas le mien. Et alors, il fallait que je trouve des mauvais garçons. Et j'ai rencontré, grâce à un ami commun, Stéphane Twitou, j'ai rencontré Rachid. Et voilà, moi, j'étais déjà fan. Lui, il ne se rendait pas compte pourquoi j'étais fan. Tu avais, je ne sais pas, 17 ans, 16 ans
7 ans et demi.
17 ans, voilà. Et c'était sur Roi Zéren. Et donc, il y avait cette attaque un peu burlesque, comme ça. Et il y avait Mathieu Amalric et son papa, Jean-Paul Roussillon, qui défendaient l'épicerie pendant que Rachid attaquait l'épicerie et nous tournions à Roubaix. Et puis c'est un coup de foudre d'amitié quoi. Le cinéma, il appartient aux gens jeunes. Le cinéma, il appartient à la jeunesse. Il appartient aux gens. Il appartient aux mauvais en classe. Il appartient il a un côté canaille, populaire. Et donc ça m'importe toujours d'entendre la voix des jeunes cinéphiles. J'aime pas me resserrer, vous voyez, sur un précaré. C'est comme ça. J'aime bien être à l'écoute des gens qui ont une passion naissante. Et voilà. Et pendant le montage de Roi Zéren. J'ai pu suivre Rachid qui faisait son premier court-métrage tout seul. Je n'y croyais absolument pas. Je me disais, il va jamais y arriver. C'était tout bricolé. Il avait un ordinateur dans sa chambre. Et voilà, une caméra et ses camarades. Et le film était, le court-métrage avait un talent fou. Et donc, on était déjà amis. Et puis, l'admiration est venue s'ajouter à l'amitié. Et maintenant, ça fait 15 ans qu'on se connaît.
Ça fait 15 ans qu'on se connaît. Je me rappellerai toute ma vie d'une chose. C'est, j'avais 17 ans et demi. Je dis à Arnaud, bah, viens manger un couscous chez moi. Et il vient dans mon quartier, dans le 93, à Pierrefitte. Et il m'a dit une très belle phrase. Il m'a dit, tu sais, le cinéma, avant tout, c'est de l'artisanat. Et c'est resté comme quelque chose qui m'a défini, je pense, avec le temps.
Vous avez senti une passion et une détermination chez Rachid Ami, Arnaud Desplechin, quand vous l'avez connu à cet âge-là?
Ah, très forte, hein. C'est quelqu'un qui est extrêmement déterminé, qui est empli de cinéma, et on a des discussions fiévreuses. Je sais que maintenant, c'est quelque chose qui m'aide encore quand j'ai besoin toujours, vous voyez, ce que j'aime bien dans les films, c'est que ça provoque la conversation. Donc j'ai besoin de vérifier chaque fois les films vus avec Rachid, de savoir où il en est de ses projets. Et c'est un homme très déterminé.
Rachid Ami, qui n'a plus 17 ans, quel est votre âge aujourd'hui?
J'ai 32.
Bon, et vous venez de présenter votre premier long métrage, La Mélodie, à la Mostra de Venise. J'imagine que ça restera toute votre vie, ça, dans votre tête.
C'est un souvenir très fort, surtout que les enfants étaient présents. On avait deux enfants avec nous et c'est important, je pense, de pouvoir emmener un film comme La Mélodie à Venise, parce qu'il faut bien que les films naissent quelque part. Et...
Arnaud Desplechin, c'est quelque chose. Il y a des festivals très importants dans sa vie qui comptent, ne serait-ce que Cannes. Merci, monsieur Gilles Jacob.
Oui, bien sûr. Mmh. Mais Venise, c'est un festival. C'était Roi Zéren qui a été un film sauvé par Venise. Sauvé. Tout le monde pensait que c'était un film malade, alors que c'est un film en pleine santé. Et puis on l'a montré à Venise, et c'est là-bas que le film s'est révélé au public, et le film après fut un succès en salle. Non, c'est un endroit merveilleux pour montrer. Et alors le film de Rachid, faut en dire un mot.
La mélodie,
c'est sur ce professeur qui a de musique, enfin ce musicien qui devient professeur, qui est joué par Kadmerad, qui est violoniste et qui donne des cours de violon à des jeunes enfants dans un quartier défavorisé.
Une classe de sixième.
Ouais. Et je n'ai jamais vu dans un film français des enfants jouer comme ça. Je ne sais pas. Pour moi, c'est un effet spécial. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on fait pour diriger des gens qui ont 10 ans et que 11 ans et qui soient. Enfin, il y a des scènes de larmes, d'engueulades, de rires, de choses. Il y a une vie. Il y a aussi. Mais c'est parce que je connais Rachid, donc je le sais. Très très français. On parlait d'Abdelatif Kechiche, qui est un des plus grands cinéastes français, qui rebrasse tout le matériel français comme ça très fort. Il y a sûrement une empreinte de cinéma là chez Rachid. Mais c'est aussi très influencé par le cinéma anglo-saxon. Et je pense en particulier aux comédies anglaises. Je peux penser à Billy Elliot ou aux Virtuoses ou à des films de Ken Loach aussi. C'est-à-dire qu'il y a, un art d'embrasser la réalité et de la transformer en roman qui est tout à fait singulière. Comme ça, c'est Rachid est très généreux, donc il embrasse un terrain. Et puis alors c'est en même temps, c'est très beau parce que c'est aussi le parcours de ses enfants qui eux-mêmes poursuivent une utopie, quoi. Hein, ils sont pas enfermés dans une réalité sociale. Le cinéaste leur laisse la chance de désirer autre chose. Ils désirent un ailleurs. Et alors ils visent cet ailleurs, ils l'atteignent plus ou moins bien. Ils trébuchent. Et alors et vraiment ce jeune héros, Rachid, rappelle-moi son nom.
Renelly Alfred. Renelly, c'est son prénom et son nom de famille, c'est Alfred.
Ah, et son nom de famille, c'est Alfred. Il est éblouissant.
Un petit garçon qui est très timide, petit peu rond, un peu renfermé. Il connaît pas son père, il vit seul avec sa mère.
Et qui est afro-descendant, ouais.
Voilà, l'arrivée de ce prof de violon, et du violon, de l'instrument en soi, et puis disons plus largement de l'art dans sa vie, va le transformer complètement. Et puis ce prof aussi, qui est un peu désabusé, un peu triste, un peu gris, va changer de couleur grâce à ses enfants, même si ça n'est pas si simple que ça. Voici quasiment le tout début du film.
Est-ce que vous aimez la musique ?
Est-ce que vous aimez la musique ?
Mais est-ce que sinon vous connaissez la musique classique ?
Ouais, il y a la musique d'Hatch Impossible. Même ça fait...
Mais monsieur, c'est même pas comme ça, c'est comme ça.
Excusez-moi.
Est-ce que vous connaissez des compositeurs de musique classique ?
Ouais. Mozart.
Mozart, oui.
Mozart, c'est bien, ouais.
Wolfgang Amadeus Beethoven, il a fait le truc là. Tan 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 tan. Tan 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 tan.
Mais c'est Céline Dion.
Céline Dion.
Céline Dion.
Céline Dion, c'est
musique classique.
Mais c'est un compositeur.
Compositeur de musique classique. Bah
oui. Attendez, monsieur, s'il vous plaît, parlez français de France. On dit pas un compositeur, or que c'est une fille. On dit une compositeuse de musique classique.
Une compositeuse. Ah, c'est bien. Alors. Pour remercier Abou pour compositeuse et Samia pour Céline Dion. Vous sortez les papiers, on oublie le violon et on fait une dictée.
Ça vous fait sourire, Arnaud Desplechin.
Le film est super drôle. Le film, il est déchirant et super drôle en même temps. Évidemment, ça me fait rire.
Il n'y avait pas que Kadmerad dans cette scène, d'ailleurs, hein, Rachid Ami.
Il y avait aussi Samir Ghesmi.
Samir Ghesmi, ouais, qui est un acteur admirable.
Qui essaie lui aussi de gérer les enfants, d'apprendre le violon en même temps qu'eux, et c'est pas simple pour lui non plus.
Il était trop nul au violon. Ça, c'est la réalité. C'est-à-dire, dans ce que tu dis, qui est intéressant, c'est que l'utopie du film, c'était ma réalité. C'est-à-dire que moi, quand je commence le film avec ses enfants, je me dis, il faut que je les emmène à la Philharmonie alors qu'ils n'ont jamais touché un violon, quoi. Et tout le monde me dit, mais t'es suicidaire, quoi. Mais je dis, mais je vais les emmener. Alors je peux vous dire que c'est ça aussi, je pense que quand la fiction s'imbrique avec la réalité, ça ouvre un horizon différent, quoi.
Mais oui, le film devient la métaphore de son tournage. Le film devient, Rivette qui disait que chaque film est un documentaire sur son tournage. Alors on sait plus ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. On voit la virtuosité de ses enfants, la virtuosité de Kadmerad aussi qui a appris le violon pour le film et qui est incroyable. Quand il y a une scène, il joue du violon, quoi. Il joue des trucs super calés, etc. Et on se dit mais quel boulot, quoi. Ça c'est parce que c'est un acharné. Rachid est un acharné. Donc il épuise ses acteurs et pour le mieux. Et du coup, nous on n'est pas épuisés du tout. On est enthousiaste. On regarde le film.
Comment ça vous épuisez vos acteurs?
Ben, dès qu'un acteur commence à travailler avec moi, la première réunion, on se dit tout de suite la vérité, quoi. Moi, je rencontre Kad et je lui dis, Kad, écoute, moi, ce que je veux, si tu veux faire le film, ce que je veux, moi, c'est que tu travailles non-stop, quoi. Je veux que, dans 4 mois, je veux que tu sois capable de jouer ça, ça, ça. Il me dit, c'est impossible. Je dis, ben, on va voir. Donc, après, on rentre dans une relation un vrai acharnement. Je crois que c'est le terme, hein. Je m'acharne. Mais il y a beaucoup d'amour aussi. C'est ça c'est là où c'est compliqué. C'est-à-dire, comme on s'aime beaucoup, il y a un vrai truc affectif qui joue entre les acteurs et moi, et ça, je l'ai beaucoup appris avec Arnaud. Donc, tout d'un coup, on est dans un bateau, quoi. On rame, quoi.
Mais enfin, vous avez des enfants, en plus de cet acteur professionnel, reconnu par la profession. Vous avez des enfants qui n'ont jamais travaillé devant une caméra.
Ben, les enfants, j'avais encore une autre approche avec eux. J'ai troqué un peu mon costume de metteur en scène avec le costume de grand frère. Je suis rentré dans un truc où voilà, je suis devenu leur grand frère. Je connais leur vie, je sais où est-ce qu'ils en sont. Et tout d'un coup, ils ouvrent une porte, quoi. Il y a une confiance qui s'installe. Un truc d'intimité qu'ils m'autorisent à pénétrer. Un partage.
Comment vous, jeune cinéaste, vous leur dites « voilà l'aventure qu'on va vivre » ?
Moi, je leur dis très peu de choses, en fait. Je leur parle pas beaucoup de l'aventure. Je leur dis « dans 3 mois, dans 4 mois, je veux que tout le monde joue chez Sherazade à la Philharmonie. » Après, je leur dis « maintenant, les gars, vous avez intérêt à être super parce que je compte sur vous. » Et je les responsabilise. Je partage très peu sur l'aventure. Je la vis avec eux, surtout. Et j'essaie de garder tout pour le tournage, quoi. J'essaie de que chaque jour soit une découverte, que même s'ils pensent qu'ils vont faire quelque chose, c'est autre chose qu'ils font.
C'est-à-dire que le matin, vous leur dites « aujourd'hui, on tourne telle situation ?»
Je ne sais pas comment expliquer ça. C'était Arnaud qui m'avait dit un jour « ah ben c'est simple, hein, dès qu'on est sur le plateau, on se bagarre avec notre scénar. » Et je suis là-dedans avec les enfants. C'est-à-dire que j'essaie de faire en sorte qu'ils soient toujours stimulés, qu'ils soient toujours en train de découvrir quelque chose, ne pas les ennuyer.
C'est-à-dire qu'ils improvisent ?
C'est un mélange d'impro et d'écrit, c'est-à-dire il y a des choses qui sont importantes que j'écris et que je garde. Mm-hmm. Et la partie d'improvisation, souvent, elle se nourrit de leur réalité. C'est-à-dire, comme je suis rentré un peu dans leur intimité, je sais des choses sur eux qui me permettent d'aiguiller mon improvisation ou de réécrire un morceau de texte, leur dire « tu te rappelles ce qu'on s'était dit la dernière fois ? Vas-y, vas-y, dis ça à un tel. Il ne le sait pas. » Et je vais mettre la caméra sur celui dont je veux la réaction ou quelque chose comme ça. Quoi. C'est toujours des jeux, quoi.
Il y a un moment sur un toit, une scène d'engueulade entre deux petits garçons, et l'un des deux crie un peu sa rage, se met à pleurer. Cette scène-là, j'ai envie de comprendre comment elle s'est faite, comment elle est devenue du cinéma.
Cette scène-là, au départ, sur le scénario, c'est marqué « les enfants montent sur le toit, ils répètent Sherazade ». Ça, c'est le scénario. Moi, j'arrive sur le plateau et je dis à mon directeur de production « aujourd'hui, je pense que... ça, j'ai besoin de la journée pour ça. » Ah non, c'est marqué, il y a juste une ligne. Écoute, ce sera la journée. Donc on a fait que ça en une journée. Ce que je fais, c'est que je construis avec eux en même temps que les séquences se mettent en place. Je rentre dans un truc d'usure sur les gamins. Je dis à celui qui joue Samir, voilà, sois relou. Je vais voir l'autre et je lui dis, t'en as marre de lui. Et puis je laisse monter la sauce. Je coupe, je reprends, je vais dire à un tel, tu vas dire ça, toi tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et je commence en fait à créer une chorégraphie de mouvement plus qu'une chorégraphie de dialogue. C'est-à-dire je travaille beaucoup sur l'impact de l'action plus que sur l'impact des mots. Ça provoque chez eux des sentiments et une fatigue, une peur. Je leur dis, mais attends, je disais à bout, je lui fais, tu penses que tu peux me la faire, hein, comme on l'avait fait une fois, on répète ensemble, tu penses que tu peux pleurer là ? Il me fait... ouais, je peux pleurer là. On le fait alors.
Et il a fait sans l'acteur pour lui donner la réplique, c'est ça ? Ce que tu veux dire ?
Ouais.
Est-ce qu'il avait trop le trac de donner ses sentiments devant son partenaire ?
Ouais.
Donc ouais, c'est magnifique. Le résultat est.
Je rentre dans la cuisine là, mais.
C'est ça qu'on aime, ça s'appelle le grand atelier.
Donc moi, c'est ça, c'est là où ça devient en fait intéressant de travailler avec les acteurs. Parce que Arnaud m'a dit une chose, c'est très important de revenir sur ça. C'est qu'Arnaud, il m'a appris la chose la plus importante, c'est le moyen. C'est-à-dire le moyen de parvenir à quelque chose est plus important que le résultat en lui-même.
Oui.
Tu m'as appris à m'interroger.
Finalement, sortir du scénario, il avait raison, Rachid Emir, Arnaud Desplechin.
Oui,
il y a autre chose que le scénario hein, pour qu'une scène existe à l'écran.
Non, il faut partir des fois sur des improvisations. Moi, je fais un cinéma pourtant très écrit et il y a des trucs d'improvisation. C'était cette phrase. Je reviens toujours à cette phrase de Truffaut que j'aime tant. C'est il faut filmer contre ce qu'on a écrit et il faut monter contre ce qu'on a filmé. Il faut raconter l'histoire. Il faut inventer des moyens que de cinéma, pas des moyens d'écriture. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faille bâcler le scénario. C'est important d'avoir une bonne histoire. C'est important d'avoir des dialogues amusants. C'est important. Mais après, il faut réinventer ça avec une caméra. C'est autre chose.
Merci d'avoir été avec nous, Rachid Ami. On reparlera évidemment du film sur France Inter quand il va sortir au mois de novembre. À quelle date la mélodie ?
Le 8 novembre, la mélodie est au cinéma, voilà.
On va écouter François Truffaut dans un instant, mais je voudrais qu'on écoute d'abord Bob Dylan, « It Ain't Me Babe ». C'est un extrait de la bande originale de votre dernier film, « Les fantômes d'Ismaël ».
Away from my window, leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak but always strong, to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Go lightly from the ledge, babe. Go lightly on the ground. I'm not the one you want, babe. I will only let you down. You say you're looking for someone who promised never to part, someone to close his eyes for you, someone to close his heart, someone who will die for you and more. But it ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Go melt back in the night. Everything inside is made of stone. There's nothing in here moving, and anyway I'm not alone. You say you're looking for someone who pick you up each time you fall, to gather flowers constantly, and to come each time you call. A lover for your life and nothing more. But it ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe.
Le Grand Atelier, Arnaud Desplechin, sur France Inter.
Moi, je fais des films parce que c'est sûrement l'activité qui me convient le mieux. C'est-à-dire, c'est là, sûrement là où je me sens le plus heureux. C'est quand je pense à un film, quand je vois un film, quand je tourne un film. Et il me semble que c'est une... Je vois ça comme une amélioration de la vie. Vous voyez, il y a des gens qui aiment la vie, qui aiment tous les instants que la vie leur donne. Et s'ils pensent aller à la pêche, eh bien, ils aiment le moment du petit déjeuner, le matin. Ils aiment le trajet en voiture pour aller à la pêche. Moi, si j'aime la pêche, je n'aimerais que le moment où je pêche. Le reste m'embêtera beaucoup. Et c'est parce que j'ai tendance à trouver, non pas la vie ennuyeuse, mais quand même pleine de temps mort. Et j'aime le cinéma qui rend la vie très intense. Vous voyez, je crois que je fais du cinéma pour pouvoir organiser une vie très intense sur l'écran. Ce n'est pas non plus que j'aimerais la vivre aussi intensément, c'est autre chose, mais c'est comme ça que je l'aime. C'est une réorganisation de la vie, dans un sens qui me convient mieux, si vous voulez.
Donc c'est une sorte de jeu pour vous?
Je ne sais pas si c'est un jeu. C'est un peu plus qu'un jeu parce que ça devient assez essentiel, vous voyez, ça devient un grand besoin. Je l'avais aussi en écrivant. Quand j'écrivais mes articles sur le cinéma, dans Art, je sais que je les relisais avec l'œil d'un lecteur en me disant, est-ce qu'il y a des passages ennuyeux? Est-ce qu'il y a des phrases qu'on pourrait raccourcir? Est-ce que je pourrais mettre un mot plus court ou plus percutant que celui-là? Alors je crois que la peur d'ennuyer est très forte chez moi, à proportion aussi de ce que j'ai peur de m'ennuyer. Et ça m'intéresse de raconter des histoires en essayant d'être captivant. Si vous voulez, il y a une phrase de Cocteau qui pour moi est presque un slogan dans mon travail, enfin qui m'aide beaucoup. Une phrase de Cocteau dans son journal de tournage La Belle et la Bête, il dit « Il ne s'agit pas de distraire mais d'intéresser ». Ça, je crois, je crois.
Ah, vous étiez très attentif, j'allais dire le jeune élève de François Truffaut que vous êtes, Arnaud Desplechin. Il n'y a pas que Truffaut dans la vie d'Arnaud Desplechin, mais il a quand même une place essentielle. Le cinéma comme amélioration de la vie, c'est quelque chose qui vous parle?
Ah oui, très fort, très fort. Je pense que le cinéma, c'est pour moi, c'était très jeune aussi un refuge. Il y a les gens, vous voyez, ils vont poser cette question d'être acteur ou pas acteur, etc. Puis il y a les gens qui, dans la cour de récréation, qui aiment la vie. Alors ceux-là, ils vont sur une scène de théâtre et ils font l'acteur. Et puis il y a des gens qui trouvent que la vie, c'est un tout petit peu surévalué. Et ceux-là, ils préfèrent être dans une salle obscure, vous voyez, où c'est un peu protégé et où la vie devient plus incandescente parce qu'elle est plus concentrée, comme le dit tellement si bien Truffaut. Avec une pensée si
alors, vous êtes de ceux-là, ceux qui pensent que la vie est un peu surévaluée. Seulement, quand vous doutez un peu de la vie et du monde, vous allez au cinéma et vous ressortez en aimant peut-être plus le monde qu'avant la séance.
Ben oui, parce que quand je vous disais l'ennui ou tout ça, c'est une illusion. C'est que dans la vie de tous les jours, on est pris par des choses quotidiennes, etc. Et alors, on a l'impression que ça ne veut rien dire, que ça ne signifie rien. On a l'impression que la vie est morne, que le quotidien est banal, que les choses se ressemblent, que les sentiments sont mous, etc. Et alors, quand on va au cinéma, que c'est mieux organisé, on se rend compte à quel point la réalité de la vie, de ce qu'on vit tous les jours, est absolument passionnant. C'est ce qu'on voit très bien dans les films des Frères Lumière. Vous voyez, vous avez une chose, je sais pas, une sortie d'usine, la sortie des usines Lumière. Bon, on sort de l'usine, c'est ennuyeux, quoi. On a été mal payé, on travaille comme ouvrier, on sort, voilà, ça n'a aucun intérêt. Et alors, quand on le voit projeté, ça devient miraculeux. L'entrée du train en gare de la Ciotat. Vous voyez ce train qui arrive avec des passagers qui approchent. Et alors, vous voyez le train, et quand vous le voyez projeté, vous dites, mais dans le fond, un train, c'est un minotaure, c'est un taureau, c'est un acte sexuel, c'est une menace, c'est une diligence. Tout ça, vous le voyez parce que c'est projeté. C'est-à-dire que la réalité projetée devient riche de mythologie, de signification et se met à scintiller. Alors quand je trouve que la vie ne scintille pas, je me trompe, donc je vais au cinéma et je m'en souviens. Et je me souviens de à quel point la vie était patente.
Conclusion, allons au cinéma.
Bien sûr.
Arnaud Desplechin. C'est pas encore l'heure de la conclusion, non, c'est juste la fin de notre première heure de ce grand atelier avec vous, Arnaud Desplechin. On va se retrouver pour une deuxième heure ensemble. On va donc aller visiter une plasticienne célèbre. Ça, c'était votre envie?
Oui, ça, c'était mon envie.
Annette Messager.
Annette Messager. J'ai souvent ça avec j'ai ça avec des films, mais j'ai ça beaucoup avec des arts plus nobles que le cinéma, que je tiens pour un art populaire. Je me rends compte de trucs en retard. Vous voyez, je me suis rendu compte tard dans ma vie que Louise Bourgeois, qui est une sculpteur française très très importante, qui habite aux États-Unis, un jour je me suis dit, mon Dieu, mais ça m'importe énormément. Et Annette Messager, je connaissais ses images depuis très longtemps, depuis mes 20 ans. Et un jour je me suis dit, mais c'est une des plus grandes. Alors est-ce qu'il faut dire, on dit plasticien?
Moi, je suis, plasticienne?
Oui, plasticienne, on pourrait dire sculpteur aussi, c'est un sculpteur.
Sculptrice.
Voilà, sculptrice, oui, on peut le mettre au féminin, bien sûr. Voilà, c'est une artiste extrêmement importante et ces images me nourrissent. Alors, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de films autour du thème de la famille, j'essaye de faire des films qui gardent un parfum enfantin, même si c'est des films pour adultes, et un côté grinçant, dérangeant. Et puis c'est une femme où je me suis rendu compte que le scandale était arrivé, une forme de scandale était arrivée dans l'art. Et alors le scandale de Annette Messager, ça m'enseigne, ça me donne une direction. Je me dis, il faut que j'aille dans cette direction-là. Je pense à ses premières installations ou à ses dernières. Enfin, c'est vraiment, elle aura produit des images dans lesquelles j'habite. Qui me permettent de dire mes sentiments, elle aura produit des images dont j'ai l'utilité. Et parfois, je me rends compte en retard. Alors là, du coup, vous me donniez l'occasion. Et alors, du coup, je dis, fonçons dans son atelier, rencontrons-la.
Oui, on est allé rencontrer Annette Messager à Malakoff dans son atelier. Vous étiez tout timide, d'ailleurs, Arnaud Desplechin, on l'entendra. Et puis, on ira aussi chez vous, parce que vous m'avez fait la gentillesse de m'ouvrir la porte de votre bureau où vous cherchez en ce moment, hein. C'est un grand laboratoire. Et puis, on cherche l'idée, on a envie de certaines pistes. On verra tout ça tout à l'heure avec vous. Et puis bien sûr, Stéphane Oliva, musicien, compositeur, jazzman, est avec nous. Il sera là et nous découvrirons aussi la dernière des scénaristes qui a travaillé avec vous. Pas très vieille d'ailleurs, hein, Léa Missius, elle a 25 ans.
25 ans et il y a le film de Rachid Ami, La Mélodie. Mais alors cet été, il y avait Ava, le film de Léa Missius, son premier long métrage. Elle avait fait deux courts métrages primés partout qui étaient formidables. L'île jaune et j'oublie le titre de son autre film. Mais enfin, Ava est sorti cet été, était à Cannes également, a été très bien reçu, et qui est un film qui a une très grande violence, une brutalité comme ça, et qui vous ramène à la vie. Ça vous plonge comme ça dans elle a une vie violente comme ça. Cette vivacité, ça me rappelle aussi, des films de Noémie Lvovsky. Je peux penser à Petite ou La vie ne me fait pas peur. Il y a une rage comme ça chez elle que je trouve merveilleuse et que les spectateurs ont pu voir cet été.
Vous êtes bien sur France Inter, vous êtes bien dans le grand atelier du cinéaste Arnaud Desplechin. Nous avons rencontré avec lui son double. Il en a marre sans doute, Arnaud Desplechin, qu'on parle comme ça de Mathieu Amalric. Mais c'est assez tentant de parler comme ça de ce comédien réalisateur qui vient de sortir un film important dans sa carrière qui est Barbara. Nous avons découvert un autre comédien devenu réalisateur, mais qui a toujours été les deux, certainement depuis qu'il est petit, Rachid Ami. Nous avons écouté le piano de Stéphane Oliva qui est toujours avec nous, qui va jouer aussi à nouveau dans cette deuxième heure. Et puis je voudrais qu'on commence en écoutant du rap, Arnaud Desplechin, parce que vous aimez le rap. Vous avez commencé à écouter du rap après la chanson à texte de vos parents. Il y avait une forme de réaction, peut-être un peu d'hostilité à la musique traditionnelle chez les Desplechin. Et il s'appelle L'Homme Pâle. Est-ce que vous connaissez L'Homme Pâle ?
Non, je connais pas.
Rappeur français, rappeur parisien, le voici.
Ça veut dire quoi, le bien ? Je suis né, j'ai pas tout compris. C'est pas gentil d'être méchant, mais c'est plus rentable que le bonheur des gens. La misère ça impressionne moins qu'un salto. Ça les ennuie comme le goût de l'eau plate. Ah, ce monde c'est une bonne blague. Je lis les nouvelles pour me faire les abdos. Tu vas trop vite, tu perds beaucoup de points. Mais si t'es spontané, t'es dans le vrai. Un gros mot qui dérape en coup de poing. Un bisou qui dérape en le vrai. T'aimes te battre quand tu sors. Et même si t'as le regard de Réliota, ton corps peut finir en désordre. Comme les phrases de Maître Yoda. Mais on s'habitue. Bientôt ça me fait plus d'effet. Tu le sais, on s'habitue. Oh non, bientôt ça me fait plus d'effet. Mais on s'habitue. Bientôt ça me fait plus d'effet. Tu le sais, on s'habitue. Oh non, bientôt ça me fait plus d'effet. Ça me fait plus d'effet. Ça me fait plus d'effet. Les prochaines années sont glauques. Chacun se bat pour son clan. Une fille bien dans la maison close. Une pute dans la maison blanche. Je suis né, j'ai pas tout. Ok. Je suis né, j'ai pas tout compris. Si tu cherches des sensations fortes, la mort peut te faire un bon prix. Les pauvres gentils désespèrent. Les méchants les ont laissés s'perdre. Mais pour eux c'est dans la poche. Comme une amende réglée avec des espèces. Personne ne veut perdre son poste. Pour elle dinero, pour elle papel. Elle est douée mais elle est pas belle. Elle va devoir convaincre son boss. Aïe. Hey, on s'habitue. Bientôt ça me fait plus d'effet. Tu le sais, on s'habitue. Oh non, bientôt ça me fait plus d'effet. Hey, on s'habitue. Bientôt ça me fait plus d'effet. Tu le sais, on s'habitue. Oh non, bientôt ça me fait plus d'effet. Ça me fait plus d'effet. Ça me fait plus d'effet. Paraît que la vie sur terre c'est un échantillon. L'enfer est flambant neuf, le paradis en chantier. Même si t'es gentil, on t'oubliera comme le premier i de suicide. Les crimes, les guerres, le passé, c'est pas mon problème. Mais la suite si. Je viens de naître, j'ai rien demandé. Mais je vais me faire plaisir maintenant que je suis ici. Mais on s'habitue. Bientôt ça me fait plus d'effet. Tu le sais, on s'habitue. Oh non, bientôt ça me fait plus d'effet. Mais on s'habitue. Bientôt ça me fait plus d'effet. Tu le sais, on s'habitue. Oh non, bientôt ça me fait plus d'effet. Ça me fait plus d'effet. Ça me fait plus d'effet.
Voilà, il s'appelle L'Homme Pâle. Son vrai prénom, Arnaud Desplechin, c'est Antoine. C'est un Parisien de 26 ans. C'est son premier disque qui s'intitule Philippe. Mm-hmm. Ça vous parle, ce rap-là?
Oui, oui, ça, j'entends, il y a une influence de la chanson quand même. C'est moins des musiques électroniques. Il y a des restes de chansons et du coup, il y a un son très français. C'est pas mal. Il ne singe pas le rap américain. Il essaie de trouver son propre chemin. Je trouve ça très bien.
Le grand atelier d'Arnaud Desplechin, ça passe forcément par l'antre, par le bureau. On part sur le lieu du crime.
Vous venez au bureau ?
Oui, je vous suis.
Alors, le bureau est peu pratique.
C'est vraiment pour m'isoler, quoi. C'est vraiment pour...
Personne n'entre ici.
Voilà, c'est...
On va passer un petit peu de temps chez vous, essayer de comprendre comment ça marche, un cinéaste qui s'appelle Arnaud Desplechin, quand il... quand il essaie d'écrire, parce que c'est toujours une tentative, non, l'écriture et l'inspiration, ce travail. On part sur une piste, on l'oublie, on a l'impression qu'on ne sait plus faire, et puis ça revient d'un coup, non?
On ne sait jamais. À chaque fois que ça recommence, il y a un sentiment de vide qui est tout à fait effrayant. Et on s'est dit, mais j'ai réussi à en faire quelques-uns, mais alors saurais-je en faire un nouveau? Et on ne sait pas.
Comment ça vient?
Mais c'était toujours déjà là, et on le savait pas. Comment ça vient? La première chose qu'on fait, c'est on ouvre l'ordinateur, on regarde les vieux dossiers, on fait avec des vieilles choses, avec des vieux repentirs, des bouts de trucs qui avaient été élaborés avant et tout ça. Ça vient en rêvassant, ça vient en marchant. Alors c'est pour ça qu'on a le trac à chaque nouveau film. On se dit, mais oui, mais le précédent c'était facile, puisque l'idée est déjà là.
C'est au contact des films des autres et de leurs récits que le désir de cinéma est venu chez Arnaud Desplechin.
Moi, quand je vois pas des films qui me nourrissent, j'y arrive pas. J'ai besoin de faire partie d'une communauté de films comme ça, de faire partie de toutes ces propositions, d'être que une des propositions de cinéma. Alors je revois, j'analyse, je dissèque les films vraiment scène à scène. En me mettant à rêver sur une scène, une scène peut pas tout dire, elle dit qu'une chose. Alors moi, je rêve aux autres choses que la scène aurait pu dire. Et ça m'incite, ça me donne des idées. Donc il y a vraiment un côté un peu maniaque dans mon travail. Et ces films de corpus, je termine, je les ai essorés. Je peux plus les voir après pendant 6 ans. Vous voyez tellement j'en suis, je les ai vus jusqu'à la nausée, quoi. Mais j'ai un moment de rêvasserie comme ça devant la télé, le soir, quand je révis ces films, qui m'aident beaucoup.
Atelier, lieu de travail, l'un de vos lieux de travail. On est dans votre bureau, Arnaud Desplechin. Est-ce que je peux prêter mes yeux aux auditeurs?
Bien sûr, allez-y.
Il y a deux ordinateurs, un petit ordinateur et un grand. Il y a sur votre table un appareil photo argentique, un Rolleiflex.
Ouais, c'est un Rolleiflex qu'on m'a offert, un vieux Rolleiflex, mais avec lequel on prend de très belles photos. C'est très joli parce que quand vous regardez dans la boîte, je mets ce son, il est admirable ce son.
Magnifique. Il y a Douaneau qui apparaît là, non?
Voilà. Ah oui, c'est beau, ça fait rêver.
J'ai réussi, mettons 300 photos, hein, au maximum, qui résistent au temps. 300 photos au centième de seconde, ça fait que jamais 3 secondes de réussite en 50 ans. Or, j'ai pas lieu de pavoiser.
Je continue de regarder. Il y a des livres en face de vous. Vous travaillez en face de vos livres?
Il y a des livres un peu partout parce que j'en ai trop, quoi. Ils sont
Je me lève pour les regarder. Il y a Roland Barthes, La Chambre Claire, note sur la photo.
Que je suis en train de relire, oui. Ouais.
Livre très important des années 80.
Ouais, c'est un très très beau livre qui était publié aux éditions des Cahiers du Cinéma. L'édition est magnifique. Et c'est un livre sur ce mystère de la vérité photographique. C'est cette trace. C'est-à-dire, quand vous regardez une photographie, alors vous avez ce sentiment très fort quand vous prenez des photos avec l'appareil qui est là, qui est le mien, c'est vous prenez la trace de quelque chose. Alors peu importe, des fois il y a des photos très sombres, un peu floues et tout ça, mais il y a quelque chose de vrai qui s'est passé. C'est pas de la peinture, c'est en vrai, c'est une trace. Et alors si à cette trace vous rajoutez la durée, comme au cinéma, vous avez du vrai qui s'inscrit et qui reste. Alors, vous regardez ce détail et vous pensez, puisque la photographie, ça commence à avoir quand même quelques années, vous voyez les morts qui viennent et qui frappent à votre porte, quoi. C'est très, très singulier, c'est un rapport très fort comme ça.
Dit l'auteur de La vie des morts.
Oui, j'ai le souvenir comme ça d'une scène qui était... est-ce que je m'en rendais compte? Et quand je le faisais, sûrement je m'en rendais pas compte. La vie des morts, c'est ces cousins qui se réunissent dans une des familles parce que un des cousins vient d'attenter à ses jours et de se tirer une cartouche de fusil dans la tête. Il est entre la vie et la mort, il est à l'hôpital, on le verra jamais durant le film. Et à un moment, il y a un des cousins qui est pris comme ça d'une mélancolie, qui songe à ce cousin mourant, et il prend une radio, il retrouve une radio chez l'oncle, une radio du crâne de son cousin, dans lequel il y a des petits plombs.
Ah, c'est les plombs. Il y en a trois qui restent. Les médecins veulent pas opérer, enfin pas encore. On ne peut pas les enlever. Une cigarette ?
Et alors, j'avais eu cette indécence-là, parfois je suis indécent, de demander dans un hôpital une vraie radio de quelqu'un qui s'était suicidé. Et quand je filmais ces plombs dans le cerveau d'un être humain, les larmes me montaient aux yeux et je pouvais mesurer l'importance du cinéma.
Il a tiré comment ?
Là. C'est un type avec qui il habitait qui nous a téléphoné. Patrick lui avait demandé d'aller acheter des calmants. Il était très angoissé. Il semble qu'il ait fait une crise d'angoisse. Le type est descendu à la pharmacie, 10 minutes. Et quand il est remonté, il s'était tiré dedans. C'est un fusil.
On va prendre nos verres d'eau. Hop. Voilà. Quand est-ce que vous êtes satisfait du tournage d'une scène ? Je ne parle pas des acteurs, mais du fait d'avoir tourné la scène, d'avoir filmé la scène, sur le plan de l'image. Quand est-ce que vous savez que c'est bon ?
Quand j'ai l'impression que je comprends mieux la scène, quand tout d'un coup je me dis là, j'ai réussi à dire la vérité de la scène. Et j'avais aucune idée. Donc je travaille comme si c'était pas moi qui avais écrit la scène, que le texte, j'y comprenais rien. Je suis juste comme un acteur, quoi. Et je me dis, voilà, j'ai un texte, je sais pas qui a écrit ça, le texte est bizarre. Et puis à un moment, tout d'un coup, ça prend, il y a un plan, parce que vous regardez de cette perspective-là, de cet endroit-là, avec cet objectif-là. Et tout d'un coup, l'émotion monte. Et c'est ça. Et tout d'un coup, le sens vous apparaît de manière très, précise comme ça. Mais alors du coup, j'écris des textes qui me surprennent moi-même. Vous voyez des répliques. Vous parliez du conte de Noël. Il y a une mère de Neuf donc qui retrouve Amalric et qui lui dit: alors, tu m'aimes toujours pas? Il dit ben non. Et il commence à parler comme ça. Il se surprennent à dire une vérité.
Elle est inouïe cette scène.
Elle est invraisemblable, non?
Ça va?
Oui.
Tiens.
Merci.
Tu ne m'aimes toujours pas, hein?
Je ne t'ai jamais aimé.
Moi non plus. J'ai pas été une très bonne mère. Hein.
Non.
J'ai aimé un peu tes frères et sœurs, mais moins que ton père ne les a aimés.
Oh, Abel, il adore Elisabeth, point barre, les deux garçons.
Ouais, moi aussi, j'étais amoureuse de ta sœur. Peut-être j'ai aimé Yvan aussi. Parce qu'il était si laid quand il était petit.
Et moi?
Toi, bébé, je sais plus. J'ai aucun souvenir. T'as des souvenirs de moi, toi?
Oui, je me souviens quand ton frère était mort. C'était en quelle année déjà ?
En 71.
Eh bien là, je t'aimais bien. Tu étais assise dans la véranda. Je viens m'asseoir sur tes genoux. Je me souviens de ta robe beige, comme un velours. J'escalade. Oui, là, je crois que je t'aimais bien.
T'avais 3 ans. Et après ?
La guerre.
Total.
Mais j'ai gagné.
C'est invraisemblable, alors quand je l'écris, je comprends pas. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai écrit là? Et puis alors, tout d'un coup, quand on se met sur cette petite balancelle que j'avais fait construire pour le tournage, et les deux se mettent, Deneuf prend une cigarette, et comme ça, et puis ils commencent tous les deux à jouer au cow-boy, quoi. C'est vraiment, ils jouent l'un et l'autre.
Avec un calme.
Ah oui, comme ça, et puis ils s'adorent, évidemment, ils adorent se détester. Et puis ils sont froids, et puis et c'est brûlant en même temps, quoi. Il y a cette inimitié entre une femme et son enfant.
Racontez-moi l'écriture de cette scène.
Ah, ça vient tout de suite, vous savez, ça vient tout de suite, ça. Vous l'avez, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu scandaleux, quoi. Et vous le savez quand vous l'écrivez, et du coup, ça vous fait rigoler à une réplique, et du coup, vous avez la réplique d'après, c'est encore plus rigolo, ça monte, et vous dites, c'est interdit de faire ça. Donc, c'est super. Vous voyez, c'est interdit.
Vous transgressez ?
Ben oui, et ça transgresse, et avec joie. Vous voyez, avec eux, parce que c'est marrant, quoi. C'est interdit, donc du coup, on a envie de le filmer, quoi. Puis on se dit, c'est bien, les acteurs, ils vont rigoler avec ça. Donc, si les acteurs vont rigoler avec ça, les spectateurs vont rigoler en le regardant.
C'est intéressant que vous racontiez un conte de Noël, et notamment ces scènes transgressives, où la famille n'est pas la sainte famille, où elle l'est peut-être, mais en tout cas...
Pas sur ce mode-là.
Parce que, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit, Desplechin est totalement dans l'autobiographie.
Alors moi, quand je fais un film, je me dis, il faut que je parle de moi. Je vais me déguiser en moi, vous voyez, pour provoquer une espèce d'embarras gêné de votre part. Vous disiez, c'est autobiographique, là, ce qu'il me raconte. Et moi, je vais pouvoir sereinement vous dire, allez savoir. Vous voyez, c'est un masque, c'est un déguisement, mais je me déguise en moi. Ça fait des bons spectacles, quoi. Ça fait des spectacles un peu... Enfin, pas bons, mais indécents, quoi. Et ça, cette indécence-là, je trouve ça sexy.
Voilà Arnaud Desplechin, en attendant de retrouver chez elle Annette Messager à Malakoff, eh bien je vous propose d'écouter quelqu'un avec qui vous venez de travailler il y a quelques mois, c'est la co-scénariste des Fantômes d'Ismaël. Son premier film Ava est sorti en juin dernier, premier film à 28 ans, elle s'appelle Léa Misius. Elsa Denac l'a rencontrée, puis elle lui a demandé ses premières fois au cinéma et aussi ses toutes dernières fois.
Ma première rencontre avec le cinéma, c'était très jeune, avec ma sœur jumelle. C'est mes parents qui me montraient des films. On était vraiment très jeunes, puisqu'on ne savait pas encore lire, donc on avait, je sais pas, 3 ans. Et ils nous avaient montré La Nuit du Chasseur et Freaks.
À 2-3 ans.
Ouais. Et c'était devenu un peu nos films, où on ne comprenait pas les sous-titres au début, puis après, au fur et à mesure des années, on a compris les sous-titres. J'étais plutôt orientée vers la littérature, on va dire. Je lisais beaucoup... toute mon enfance et le cinéma, bon, on voyait quelques films, mais on habitait à la campagne, donc c'était pas non plus débordant de cinéma. Et vers 14 ans, j'ai vu comment je me suis disputée, ma vie sexuelle, de Desplechin. Et là, je me souviens très bien de l'effet que m'avait fait le film, une sorte de... Enfin, ça m'avait rendu muette, en fait, après la projection, parce que c'était sur le vidéoprojecteur de mes parents. Et j'étais partie dans ma chambre pour écrire une lettre à Arnaud que je n'ai jamais envoyée parce que déjà je ne savais pas du tout comment faire pour l'envoyer et ensuite parce que c'était un peu ridicule.
Et qu'est-ce qu'elle disait déjà cette lettre ?
Bon, alors là je sais plus, j'avais dû lui raconter ma vie quoi.
Vous vous souvenez d'une scène en particulier ?
C'était l'ensemble je pense et c'est surtout l'effet de la fin. Je me souviens comme ça d'un flot de paroles qui m'avait amené au silence quoi. Je me souviens juste du silence de la fin. Et que quelque chose avait changé, comme Sylvia à la fin dit « Tu m'as changé », etc.
Et vous avez changé.
Avec un peu de recul, je me dis peut-être que c'est ce film-là qui a fait le pont entre la littérature et le cinéma, que j'avais vu un film où il y avait du romanesque, où il y avait comme ça un plaisir des mots. Et... Voilà, maintenant je l'analyse comme ça, mais après je sais pas.
Ta première rencontre en chair et en os.
Je l'ai rencontré quand il cherchait donc, un scénariste. Et je sortais de la FEMIS en département scénario. Voilà, il m'a contactée et puis voilà, on s'est rencontrés.
En quoi ça consiste d'être scénariste ?
En fait, ce qui est très intéressant, je trouve déjà, c'est qu'on rentre vraiment dans la vision de quelqu'un, sa vision du monde, du cinéma, sa perception, quoi. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à comprendre son fonctionnement, ses goûts, en quelque sorte, se mettre à la place du réalisateur et se mettre au service de son projet. Et à la fois, il faut aussi quand même garder sa personnalité et ses opinions pour pouvoir maintenir le dialogue, pour faire avancer l'écriture, quoi. Donc on est toujours un petit peu comme ça, à chercher sa place entre les deux.
Concrètement, c'est quoi ?
Concrètement, la coécriture, oui. Bah, avec Arnaud, c'était très intense. On fumait beaucoup de cigarettes, on écoutait de la musique et on travaillait beaucoup. Quoi.
Qu'est-ce que vous écoutiez comme musique ?
Beaucoup de rap.
Et ça, ça influe sur le rythme de l'écriture ?
J'imagine qu'il choisissait en fonction de son humeur du jour.
Est-ce que c'est bon signe quand il est d'une humeur rappeuse ou pas ?
Bah ouais, je pense.
Maintenant, posez une question à Arnaud Desplechin.
Donc je m'adresse à Desplechin, ouais. Vu qu'on parle un peu des premiers films et tout ça, je me demandais si la sortie de votre premier film en salle avait changé un peu le rapport à l'écriture pour le second. Dans le sens où moi, en fait, depuis que Ava est sortie, il y a comme s'il y avait une... comme si j'avais pris conscience d'une nouvelle donnée qui m'avait échappé jusque-là, c'est la réception du public et le regard des autres. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous après la première sortie en salle de votre premier film ou pas ?
Alors Arnaud Desplechin, la question est posée par votre camarade de travail. Oui. Léa Misius, elle vous voit d'ailleurs ?
Oui, nous vous soyons.
Vous soyez. Oui. Vous tutoyez Rachid Ami, mais vous soyez.
Oui, parce que nous travaillons ensemble. Alors c'est une façon de lui montrer mon attention, mon respect. Et puis ça m'impressionnait, cette très jeune femme. Vous voyez, on se voyait. Elle allait trouver que j'étais un barbon. Et alors voilà. Donc je la vous soyez parce que j'étais impressionné.
Alors je repose la question à la place de Léa Misius. Est-ce que la sortie de votre premier film, qui était La Vie des Morts en 1991, vous aviez 31 ans.
Mais...
Est-ce que la sortie de ce film change quelque chose sur l'écriture du suivant?
Oui. On pourrait le prendre de façons. Le public nous enseigne quelque chose. C'est très curieux parce qu'au cinéma on n'est pas dans la salle, vous voyez, puisque c'est mécanique. Hein, le spectacle est déjà fabriqué. C'est pas comme au théâtre et c'est projeté. Et pourtant le fait qu'on sait que dans la salle dans laquelle je n'entre pas, c'est une superstition. J'ai jamais vu aucun de mes films. Je n'entre pas dans la salle. Je sais que des gens sont en train de le regarder. Comme j'ai bonne mémoire, je me souviens de tous ces instants. Donc je regarde sur ma montre. Je me dis mince, ils en sont là. Et ça m'apprend quelque chose. Et il y a une vibration. Après, souvent, vous rencontrez le public à la sortie de projections, d'événements divers et variés, de festivals. Et ça infuse quelque chose, il vous enseigne quelque chose sur votre film. Et puis faire un film, c'est tellement violent que vous n'êtes pas le même homme après. Vous n'êtes pas le même homme ou la même femme après. Vous pensiez, vous disiez, bon voilà, mon film d'après, ça va être ceci, cela. C'est pas vrai, le film vous a changé. Vous êtes l'invention de votre film, peut-être plus encore que le film est inventé par vous. Enfin, ça m'affecte beaucoup.
Donc depuis 1991, il n'y a pas un Arnaud Desplechin, mais des Arnaud Desplechin.
Bien sûr. Je pensais à ça. C'était Amalric qui disait ça de manière très drôle. C'était sur son premier film où donc il devait pas être acteur. Et finalement, il était acteur. Comment je me suis disputé. Et alors, il y avait une projection. C'était à Lille. Je me souviens très bien. Et il y avait ce grand écran. Et Mathieu arrive après le spectacle, le film. Les spectateurs avaient bien aimé le film. Ils rigolaient. Ils rigolaient de voir Mathieu tout petit devant ce grand écran comme ça. Puis il avait une dégaine amusante. Comment je me suis disputé aussi une comédie. Donc voilà, il était drôle. Quoi, dans le film, ça les faisait rigoler. Et puis alors le public disait non mais arrêtez de rigoler deux minutes. Paul Dédalus, c'est vous, hein, voilà, c'est un portrait de vous. Et puis Mathieu disait non, c'est pas vrai du tout, c'est moi maintenant que j'ai fait Paul Dédalus, j'essaie de le copier. Par exemple, j'ai remarqué que Paul Dédalus, il dit des trucs, ça marchait avec les filles. Alors j'ai essayé, effectivement, ça marchait. Mais c'est pas moi qui parle comme ça. Vous voyez, les gens pensent toujours que les personnages viennent de nous, alors qu'on s'efforce au fur et à mesure des années de ressembler aux personnages qu'on a inventés. Il y a des allers-retours entre la vie et le cinéma. C'est pas des allers simples, c'est des allers-retours.
Donc ça modifie en mieux.
Bien sûr, bien sûr.
Stéphane Oliva est avec nous, Arnaud Desplechin. Vous avez souhaité la présence de ce jazzman, de ce pianiste, de ce musicien qui est fou de cinéma, constitué et modifié peut-être, on lui demandera aussi par le cinéma, comme vous l'êtes depuis le début des années 90. On va l'écouter à nouveau s'inspirer d'un thème de Bernard Herrmann.
Lequel ?
Vertigo, ça vous convient ?
Vertigo, c'est c'est la musique de film absolue. Ça, c'est, j'ai, avec Grégoire Hetzel, le compositeur qui a la gentillesse de composer pour moi sur mes films, c'est le thème qu'on n'arrête pas de reprendre, de malaxer, de changer, de c'est un miracle de musique et ce que fait Oliva avec est sublime.
Le grand atelier, Arnaud Desplechin sur France Inter.
Vertigo, Stéphane Oliva, et on vous sent heureux quand même, petit garçon à qui on a fait un beau cadeau.
Ah non, c'est magnifique, c'est le... ce qui me touche beaucoup, c'est dans le jazz, ce qui me touche, c'est cet art de casser les thèmes, de faire entendre d'autres thèmes, d'autres musiques qui dorment dans la musique, d'autres notes qui demandent toujours à être jouées. Et là, vous arrivez à concasser mais plusieurs thèmes en même temps. C'est ça que cette virtuosité là qui me, parce que on entend plusieurs thèmes et c'est une seule musique. C'est, vous arrivez à unir plus qu'encore qu'à fracturer. Je me demande, c'est par cinéphilie, alors que vous êtes arrivé à ce qu'on échangeait quelques mots, et vous avez, j'ai l'impression que vous avez vu pas mal de films quand même.
Moi, j'adore le cinéma, bien sûr. J'adore le cinéma. C'est tout ce que vous dites sur le cinéma me parle énormément. C'est-à-dire que la musique, c'est mon langage, en fait. Mais ce langage me permet d'être sensible à plein de choses dans la vie. Et j'essaie de traduire avec mon langage, finalement. Mais en général, je préfère écouter les bandes-sons. C'est ce que je disais en micro à Arnaud Desplechin, c'est que je disais qu'une des grandes qualités de ces films, c'est qu'ils pourraient être écoutés. Ils pourraient vraiment être écoutés avec un très grand plaisir. Peut-être on y entendrait encore d'autres choses. Ce mélange très beau du cinéma sonore qui a quand même gardé la musique, parce qu'il aurait pu s'en passer finalement. Et une fois sorti du cinéma muet, je trouve que ce mélange est très 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 fort. C'est vraiment l'opéra moderne, mais à l'envers. C'est-à-dire que c'est le film qui est d'abord là, et la musique, elle est là, fantomatique, comme je disais, en arrière-plan, mais elle fait un travail incroyable.
À travers la musique, j'ai l'impression, en vous écoutant, enfin, en vous écoutant jouer, parler, si vous nous racontez les films, si vous prenez
j'essaie de me faire le film.
Il fait partie parfois des films d'Arnaud Desplechin, le jazz. Il me semble que dans un conte de Noël, Jean-Paul Roussillon, le mari de Catherine Deneuve, donc le père de la tribu, écoute du Charlie Mingus et qu'il a même la partition entre les mains.
Oui, il a la partition de Mingus et il révise du Mingus le soir avant de s'endormir à côté de sa femme qui a un cancer. Oui, j'aimais beaucoup ça. Il écoutait des disques de Cécile Taylor. Il écoutait, oui, que du jazz un peu comme ça. Moderne, enfin qui n'est plus moderne. Oui, moderne, pas contemporain, mais moderne, qui a un appétit de modernité. Alors ça crée un personnage en couleur. Jean-Paul adorait faire ça.
Merci de votre présence, Stéphane Oliva, dans le Grand Atelier. Merci. À bientôt, peut-être.
Avec plaisir.
Le Grand Atelier. Vincent Josse, sur France Inter.
Arnaud Desplechin, on a un taxi qui nous attend depuis un petit moment. On va partir avec joie chez la plasticienne Annette Messager. On y va à Malakoff ?
Très bien, partons.
Bonjour.
Vous imaginez comment l'atelier de la plasticienne Annette Messager ?
C'est curieux parce que j'ai des photos de l'appartement où elle a commencé ses installations qui étaient plus simples, puisque c'était des albums, des compilations de photos, des boîtes, des cahiers, des choses comme ça. Alors c'était des photos d'un appartement somme toute modeste, et les dernières pièces sont quand même assez impressionnantes, quoi. Ça prend de l'espace, alors je me dis, j'espère qu'elle a un grand espace pour pouvoir inventer les images qu'elle invente. Alors qu'est-ce qu'elle aura stocké là-bas, je sais pas.
Je crois qu'on est arrivé, Arnaud Desplechin, état présent de votre esprit.
Émotion. C'est mieux qu'un musée, c'est en vrai. Ouais, je suis le vrai artiste. Donc là, je me sens comme une... Vous me permettez d'accomplir un rêve, quand même. Je suis très heureux.
Merci.
Merci, bonjour, monsieur.
Au revoir. Bonjour. Et on arrive, et il y a une inscription sur un mur.
L'amicale des témoins nous dit que les témoins ont peur. C'est terrifiant. C'est vachement bien. Je vais réviser dehors une ou deux œuvres pour me souvenir des titres, parce qu'il y a une œuvre qui est spectaculaire. Et puis alors, toutes ces séries qu'elle fait, je m'y perds évidemment, avec délice, mais je m'y perds. Mais alors, je vais être devant elle, je vais avoir l'air bête, parce que je vais confondre les noms des œuvres.
Ce qui est drôle, c'est qu'elle-même, là, actuellement, elle se dit la même chose. Non. Elle est devant sa télé avec les DVD.
J'espère que non, moi.
Avec des films de 3 heures.
C'est un des films trop longs.
Je recolle des yeux, je décolle des oreilles, je coupe des doigts, je déchire un sein, c'est ma loi d'échange. Je taille, je mets en pièces, morceaux de choix, bas morceaux. Je démembre, je morcelle, je hais le linéaire, j'épingle, je sèche, j'humidifie, je ressèche. Je n'enfante que des chimères.
Arnaud Desplechin, vous êtes prêt ?
Je ne suis pas prêt du tout et c'est trop tard.
J'ai trouvé la lettre au messager. Oui, c'est nous. Oui.
Bonjour.
Bonjour Annette.
C'est gentil de se voir.
Ben, c'est très émouvant pour moi.
Oh ben écoutez, ben, je vous présente Lola. Je viens lui offrir une petite balle, mais parce qu'elle aime beaucoup les petites balles, mais là alors je crois qu'elle a détesté.
Arnaud a un chat aussi.
Ah.
C'est une première. Non, une.
Ah, bon.
Oui.
Qui s'appelle Mouche-Mouche.
Mouche-Mouche ?
Je crois que ça veut dire souris-souris en farsi. Et voilà, ça lui est arrivé comme ça, Mouche-Mouche. Et,
Où est-ce que vous nous emmenez, là, Annette Messager ?
On va à base 2.
Base 1, c'est la maison ?
Atelier. Base 1, c'est la maison. Base 2, c'est ici. Base 3, c'est une réserve. Voilà, donc ici, c'est base 2.
Et base 2, c'est là où vous inventez ?
Non, en fait, je travaille aussi chez moi, ça dépend. Je fais des dessins, je les fais chez moi. Je ne peux pas faire des dessins dans un espace assez grand, il faut que ce soit plus intime, ou des choses de couture, ou des plans, c'est chez moi, j'ai plusieurs. Moi, je suis un peu partout. Pour moi, de voir mes choses, ça me bloque. Mm-hmm. Alors, je fais beaucoup de photos par téléphone et je les regarde ailleurs. Mm-hmm. C'est presque comme si c'était pas une chose de moi, donc je me dis ça va pas du tout ça. Uh-huh. Mais là je le vois pas. Uh-huh. Je suis trop dedans et puis j'ai envie de faire des trucs, tandis qu'il faut avoir du temps pour ne rien faire. Uh-huh. C'est vraiment important, je pense, pour vous aussi.
C'est le plus douloureux pour moi, ce temps de rien
faire. Oui, on a toujours envie de s'occuper.
C'est marrant, mais vous allez contester le terme, parce que moi je fais une différence très forte, qui chez vous est symbolique, entre les arts nobles, les arts dont j'ai rêvé, qui me nourrissent, vous voyez, la musique, l'art, et puis les trucs de forains, les arts mineurs. Mm-hmm. Alors moi je suis plutôt dans les arts mineurs, c'est ça qui m'amuse, quoi, c'est le musical, quoi, les choses comme ça. Et alors des fois, ça m'arrive peu avec les films, et ça m'arrive beaucoup avec les artistes, c'est un jour, je me dis, je ne sais pas pourquoi, je recalcule ma vie, vous voyez, ça m'arrive peut-être pendant que je dors ou un truc comme ça, et je me suis rendu compte que vous étiez très très importante pour moi, que vos images, elles m'avaient nourri de manière très forte depuis longtemps. C'est toujours en retard que je prends la mesure que des œuvres, elles ont eues sur ma vie.
C'est pas en retard, mais il y a une sorte de... Il faut peut-être être digéré, de digestion, de fermentation. Ouais. Je crois beaucoup à la fermentation. Ouais. Mais quand vous dites que c'est un art mineur que vous faites, je trouve que le cinéma, ça englobe à la fois l'écriture, les gens, la musique, le visuel. C'est formidable.
Ah, c'est très rigolo à faire. C'est très, très rigolo à faire. Non, c'est vrai, c'est très amusant. J'avais vu, c'était les... Je me souviens, je vais avoir la honte, parce que je me souviens pas bien du titre. C'était Les enfants aux yeux rayés.
Oui.
Vous savez qu'il avait 4 ans, il avait 3 ans. Et tout ça.
Oui, il aurait 4 ans, il aurait 3 mois. Il aurait
pris des photos de bébés. Vous aviez rayé
J'ai pris dans les journaux des photos de bébés très mignons, qui comme s'ils grandissaient, comme si c'était le mien. Il aurait 2 mois, il aurait 4 mois, il aurait 5 mois. Puis finalement, tout était faux. Donc j'ai rayé. J'ai été insultée par ce.
C'est tellement provocant, c'est tellement violent qu'il y a un rire et il y a un effroi en même temps. Et ça a changé ma. Ça libérait une énergie, une violence possible comme ça, qui était spectaculaire, spectaculaire. J'ai fait pas mal d'images interdites quand même. Je pense à ces enfants, ça me reste comme une... On n'a pas le droit de faire ça, alors il faut le faire, il faut absolument le faire, parce que...
Il faut tout faire.
Ben oui.
Ce qui change d'avant, c'est que je commande beaucoup d'objets par Internet, beaucoup de choses, des mains que je transforme complètement et tout. Mais je ne sais jamais ce que je vais avoir. Parfois, c'est une horreur. Peut-être c'est bien. Mais il y a une surprise comme ça. Et puis, je me dis, ça vient de je ne sais pas où. Vous voyez les journaux qui arrivent.
Là, c'est une commande, là ?
Oui, c'est des... Vous voyez, oui, c'est, vous voyez, c'est des mains qui arrivent comme ça.
Des mains de mannequins ?
Des mains de... Oui.
Elles viennent d'Inde.
Et les journaux qui les enveloppent,
c'est
effectivement.
C'est asiatique.
C'est formidable.
Et vous les avez peintes ? pour certaines.
Oh là là, bah, je les ai peintes, je les ai déformées, vous voyez, ouais. On fait les doigts, c'est un gros travail, et puis je ne sais pas ce que je vais en faire encore.
Rien n'est fait. Moi, je trouve ça assez fascinant, parce que pour moi, c'est de l'ordre de la magie, Arnaud Desplechin. Il y a l'idée de commander sur Internet, on ne sait pas quoi exactement.
C'est ça que j'aime aussi d'Internet, c'est vraiment, il y a pire. Mais c'est formidable, on reçoit des trucs, et j'avais commandé un truc, ce garçon qui travaillait avec moi, c'était grand comme ça, alors que je pensais que ça allait être grand comme ça. Enfin...
Puis il y a des surprises, et puis vous avez envie d'en peindre certaines, sans savoir ce que ça va devenir.
Ah oui, non, non. Si je sais exactement ce que je veux faire, bah d'abord c'est même pas la peine de le faire, et puis c'est pas intéressant, parce qu'il y a tout un chemin qui des choses qui s'ajoutent, l'actualité, quelqu'un que je croise dans la rue, enfin, plein d'éléments qui sont la vie, qui font que, parce que si, je me suis rendu compte, si je vais faire ça, ça va être super et tout, ça marche pas.
Arnaud, quand vous m'avez dit, j'aimerais bien passer chez Annette Messager, parce que je vois ses œuvres, je les suis depuis très longtemps, vous m'avez dit, j'aimerais aussi parler avec elle de la condition féminine.
Oh là là, j'ai toujours pensé la France est un vieux pays, plein de traditions, et que c'est justement en étant très sage et en faisant des choses ou des proverbes que j'ai brodés, qui sont tous plus horribles les uns que les autres sur les femmes, et en même temps j'ai brodé partout, on disait « Oh, comme elle est gentille cette femme, elle fait de la broderie et tout ça », c'était des horreurs.
Rappelez-nous quelques phrases que vous brodiez.
Si la femme était bonne, Dieu en aurait une, tout vient de Dieu sauf la femme... Le sexe de la femme est une araignée, enfin, toutes sortes, et pire encore. Ça, c'est un papier peint que j'ai fait, ça c'est à Rome, sur des utérus comme des fleurs, parce que je trouve qu'un utérus, c'est comme des fleurs.
Pas de Dieu dans mon vagin, en anglais.
Bon, enfin... Hein.
C'est très très beau, ce dessin. Mais il y avait... Ce qui me frappait, c'était de... Il y avait un théâtre autour de cette question de la féminité. Il y avait une façon de se mettre en scène. J'imagine aussi de prendre la parole en tant qu'artiste et femme. En ce moment, on n'est pas en plus dans une...
C'est pour ça que ça m'a intéressé, les féminines, parce que j'ai fait beaucoup de dessins par rapport à ça, puis après ça a déjoué, parce que je trouve que c'est justement un nouveau féminisme, mais tout à fait assumé. Elles sont belles, elles montent leur sein, elles sont fières, elles sont insolentes. Et je trouvais que c'était justement... Donc j'ai fait des dessins par rapport à ça. Voilà une partie de ces dessins. Et en Pologne, l'avortement, M. Trump, tout ça, c'est une régression. De toute manière, on est aujourd'hui entouré de règles d'interdiction comme ça n'a jamais été. C'est une sorte d'oppression où soi-même, on se censure presque, parce que la censure est partout. Je vais plus au cinéma. J'étais beaucoup, beaucoup au cinéma parce que je faisais mes études rue d'Ulm. Enfin, mais je faisais mes études. J'étais renvoyée, alors. L'école des arts déco était toujours rue d'Ulm et il y avait la cinémathèque qui était rue d'Ulm. J'ai passé mes journées à la cinémathèque. Moi, j'étais nourrie par ça, pas par l'école des arts déco. Vous placez le musée très très haut, vous ?
Ah bah moi, ouais, super haut.
Ah oui.
Ah ouais, super haut. Je crois au musée, je crois à la poésie, j'y crois. J'ai un acte de ça remplace.
Dans le cinéma, il y a une identification.
Ouais.
Et particulièrement dans vos films, enfin, ces familles, ça rappelle nos familles, des familles, on a tous... Et c'est vraiment... Ça, c'est une force du cinéma où on peut s'identifier. Ouais.
C'est le gros plan. C'est
et
le gros
vous,
plan,
particulièrement, parce que c'est des gens, on dit, normaux, enfin, des familles, beaucoup. Et nous, on n'a pas ça.
Moi, j'ai le trac, parfois, quand je sais que je vais aller dans un musée, que je vais voir une œuvre que je connais un petit peu par photo et tout ça, parce que je me dis, est-ce que je vais savoir me tenir de devant, bien trouver la... À quelle distance me tenir du tableau ? Bah oui, c'est les trucs d'autodidacte, on est trop respectueuse, c'est comme ça. Je peux pas me changer.
Je je crois pas.
Non, mais vous avez raison. Je suis sûrement trop respectueux. Quoique non, j'arrive maintenant à aller au musée. Je regarde pas tout. Je regarde les œuvres qui m'appellent, quoi.
Le Grand Atelier sur France Inter.
Alors Arnaud Desplechin, ça y est, vous l'avez vu?
Oui, j'ai vu l'artiste. Ouais. J'étais trop impressionné. Voilà.
Donc, pourquoi trop?
Ben parce que c'est, sûrement elle aurait peut-être préféré que je sois plus irrévérencieux, mais voilà, j'étais tout impressionné. Voilà, c'est comme ça. Je pouvais que lui dire mon émotion, quoi, de la voir. Quelle femme,
hein, quel personnage et quel artiste. Merci d'avoir passé ces 2 heures avec nous.
Merci.
Je vous ai demandé pas mal de temps quand même. Hein. On s'est vu assez souvent pour pouvoir parcourir vos désirs, certainement pas tous vos désirs, mais en tout cas vos désirs de rencontre et de partage.
J'en étais très honoré.
Merci beaucoup Arnaud Desplechin. Je vous souhaite une bonne tragédie alors, puisque c'est ce qui vous attend.
Oui, c'est ce qui m'attend. Je me tourne là-bas, donc je vais être très malheureux. Et donc je vais m'amuser beaucoup à être très malheureux. Ça va être très bien, très tragique. Je vais me découvrir une âme tragique.
Et si je vous dis merde, alors qu'est-ce que vous me répondez?
Je vous réponds, je prends.